Radio Kapi. Belinda Bosumba Momba pour le journal.
Interpellation de l'ex-patron de l'ANR. D'après plusieurs sources, le concerné Kalev Mouton dit être libre. Il revenait d'un voyage lorsqu'il a été intercepté par les agents de la DGM à l'aéroport de Ndjili et amené dans les installations de l'Agence nationale des renseignements. Tête à tête hier à Bukavu entre les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu d'une part et le représentant spécial adjoint François Grignon d'autre part. Au menu de leur entretien, les modalités à mettre en place pour notamment réinsérer les ex-combattants qui pullulent dans les deux provinces. Et puis, dans ce journal, nous recevons comme invité le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatomba. Sachez tout d'abord que le chef de l'État va effectuer une visite tout à l'heure à l'université de Kinshasa. Selon nos informations, Félix-Antoine Tshisekedi va également visiter les sauts de moutons. Objectif, c'est rendre compte de l'état d'avancement des travaux. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonjour. Affaire interpellation de l'ancien patron de l'ANR, tel que relayé par plusieurs sources. Le concerné, Kalev Mouton, dit être libre et chez lui à son domicile en train de préparer les funérailles de son beau-frère. C'est ce que l'intéressé vient de nous déclarer au téléphone. Interpellé hier avant d'être relâché dans la soirée par l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mouton revenait d'un voyage lorsqu'il a été intercepté par les agents de la DGM à l'aéroport international de Ndjili et amené dans les installations de l'Agence nationale des renseignements. Pour en savoir davantage sur ce sujet, nous avons sur ce plateau notre collègue Jeff Ngoy. Bonjour.
Bonjour Belinda.
Où se trouve présentement Kalev?
Eh bien, Belinda, Kalev Mutonde, nous venons de la voir tout de suite là. Écoutez ce qu'il nous dit au téléphone que nous avons eu.
Oui, bonjour mon ami.
C'est juste savoir...
Vous m'avez entendu en train de parler aux neveux et autres sur l'organisation à mettre sur pied pour l'intermédiaire. Donc, permettez que je termine tout ça.
Donc, vous êtes en liberté, c'est ça?
Avec la famille, je vous appelle sans faute.
Vous êtes en liberté?
Je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi à la maison en train d'organiser l'enterrement de mon beau-frère.
On ne vous a pas ravi les passeports?
Je devais aller à une rencontre. J'ai demandé comme excuse que je termine l'organisation des funérailles.
On ne vous a pas ravi votre passeport?
Je suis chez moi à la maison.
Avec votre passeport.
Ok, excellente journée. Hein?
Mais dites-nous, Jeff, que reproche-t-on à Kalev Mutonde?
Oui, Belinda, d'après nos sources de l'ANR, il a été demandé à Kalev Mutonde de se mettre à sa disposition chaque fois qu'on aura besoin de lui pour des auditions se rapportant au service des renseignements et sécurité. Sans commentaire. Hein?
Voilà, je vous remercie pour ces informations. On vous aura dans nos prochaines éditions. Les provinces du Nord et du Sud Kivu réfléchissent ensemble sur les modalités à mettre en place pour parvenir à sensibiliser, désarmer, démobiliser et à réinsérer les ex-combattants qui pilulent encore dans les deux provinces de l'Est de la RDC. Ces ex-combattants sont estimés à environ 50 000 au Nord et au Sud Kivu. C'est dans ce cadre que les gouverneurs des deux provinces susmentionnées se sont réunis hier à Bukavu autour du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, François Grignon. Le compte-rendu de cette réunion avec Jean Kassami.
Les deux gouverneurs du Nord et du Sud Kivu et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies ont passé en revue le contexte de la création de la commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Tous les acteurs impliqués dans ces processus sont unanimes que les trois premières phases du DDR ont échoué et que c'est le moment de mettre sur pied de nouvelles approches afin de corriger les erreurs du passé. L'objectif primordial est de mettre définitivement un terme à l'existence des groupes armés locaux et étrangers dans les deux provinces pilotes du DDRC. Ces programmes concernent aussi les combattants congolais qui opèrent en dehors du territoire de la RDC. Teongo Abidje Kasi, gouverneur du Sud Kivu.
Au 1er avril 2020, nous comptons organiser une table ronde de mobilisation des recettes. Au 1er juin 2020, nous comptons démarrer les activités.
Dans son exposé, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kasivita, a signifié qu'il serait illusoire que les ex-combattants espèrent réintégrer l'armée régulière in globo. Seuls les ex-combattants qui remplissent les conditions requises seront réintégrés. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant ce temps, du côté du Nord Kivu, le général Patrick Doubé de la Brigade d'intervention des Nations Unies, la FIB, invite les populations de la région de Beni en général et ceux de Mangina en particulier à se désolidariser de certains groupes armés Maïmaï. Pour lui, ces Maïmaï sont alliés aux ADF et il faut les dénoncer auprès des services de sécurité, dit-il. Par ailleurs, il exhorte cette population à ne pas se rendre justice par la pratique de la justice populaire. Le général Patrick Doubé au micro de Sekombi Katondolo.
Nous demandons à la population de nous aider dans son espace à retrouver les ennemis parce que les villageois se connaissent. Si vous voyez une personne inconnue, il ne faut pas les tabasser ou lui faire quoi que ce soit. La pensée est là, alors il faut seulement aller les dénoncer et dire que cette personne est inconnue et la pensée fera son travail. Nous, nous voulons vraiment continuer avec notre travail. Alors, arrêtez d'apporter de l'aide aux Maïmaï. Je sais que le gouvernement a un processus en cours pour en finir avec le Maïmaï.
Restons à Beni. Les écoles de la région de Mangina ne fonctionnent plus depuis plus d'une semaine maintenant. Cela après les attaques le week-end dernier des rebelles ADF dans la région. Attaques qui ont occasionné le déplacement massif des populations vers des grandes agglomérations jugées plus sécurisées. La société civile noyau de Mangina plaide pour un aménagement du calendrier scolaire pour ainsi permettre aux élèves de cette zone de passer leurs examens de premier trimestre. Le plaidoyer de Rangi Jupson, président de la société civile de Mangina, au micro de Sekombi Katondolo.
Nous voudrions c'est que le ministre puisse aider ses élèves, qu'on puisse encore aménager notre calendrier pour les élèves de Mangina qui ont fui. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'une guerre, des atrocités, c'est tout le monde qui fuit. La balle ne connaît pas qui est élève, qui est militaire et qui est citoyen. C'est tout le monde d'abord qui prend fuite et que nous voudrions c'est que le ministre, au niveau national, qu'il puisse réaménager et calendrier pour les élèves de Mangina, à ce que qu'on puisse voir comment on va récupérer les élèves qui étaient en plein examen et qu'ils ont déjà pris fuite. Donc nous demandons à ce que le ministre provincial, que ce soit national, qu'il puisse aider ses enfants. Ce sont nos enfants, les cadres de demain de ce pays.
Par ailleurs, parlant identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires, nouvelles unités à travers tout le territoire national, vous le savez, cette opération a été lancée le lundi par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À cette occasion, Willy Bakonga a annoncé que des équipes des superviseurs nationaux sont à pied d'œuvre pour accomplir cette mission. En réaction, le député national Jackson Aoussé Asingoto, élu du territoire du Rumu en Ituri, s'est réjoui du démarrage de cette opération. Seulement, il demande à ce que les équipes chargées de matérialiser la dite opération sur le terrain ne se limitent pas seulement aux chefs-lieux des provinces, comme c'est souvent le cas, mais qu'ils s'y rendent jusque dans le fin fond du pays. Le député Jackson Aoussé au téléphone de Christian Vonga.
L'identification des nouvelles unités et des nouvelles écoles à travers le pays, c'est une action salutaire. Nous-mêmes, nous venions sur terrain, on a organisé des tables rondes, n'est-ce pas, dans nos entités respectives. Les enseignants nous ont exprimé ces problèmes-là qui étaient du reste réels. Nous remercions le ministre pour pouvoir déclencher cette opération. Seulement, nous interpellons, monsieur le Premier ministre, de ne pas rester au niveau de la bonne volonté, d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, malheureusement, à des commissions comme ça, nous insistons qu'à une pacte dans des provinces. Il ne se limite qu'aux chefs-lieux des provinces. Or, la plupart de nos écoles se retrouvent dans des territoires, dans des chefferies et dans des groupements. Alors cette fois ici, nous voulons que les écoles du village, les écoles de groupement, les écoles qui se retrouveraient dans l'arrière-pays soient identifiées. Nous ne voulons pas avoir un grand nombre des enseignants qui seront identifiés, un grand nombre de fictifs recrutés dans des villes au détriment des vrais enseignants qui sont au niveau des villages. Nous insistons là-dessus, nous voulons que cette fois ici, qu'on identifie les écoles, les enseignants, nouvelles unités qui sont dans des territoires et dans des chefferies.
Et puisque nous parlons de l'enseignement, notez que plus de 400 enfants des familles victimes des inondations à Zwangouba ne sont plus scolarisés. Nous sommes en aval de la rivière Ubangi, non loin de la cité de Mobaï Mbongo. Les parents ont tout perdu lors de ces inondations et ne savent plus subvenir aux besoins de scolarité de leurs enfants. Beaucoup parmi ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 17 ans, affichent des signes de problèmes psychologiques dus à leur état actuel. C'est ce qui a poussé l'ONG APE, entendez, Action pour la protection et l'enseignement, l'encadrement des enfants avec l'appui de l'UNICEF à mettre en place un espace ami d'enfants dans ce village. C'est pour leur prise en charge psychologique. Notre envoyé spécial dans la région, Jacques-Yves Molima, s'est rendu sur le site. Voici son reportage.
Disposé en trois groupes selon les tranches d'âge, de 3 à 6 ans, de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans, ces enfants sont pris en charge par des formateurs de l'APE. D'après le chef de projet Françoise Mbélé, tout commence par le constat qu'ils font sur les enfants.
Les enfants qui ont des problèmes psychologiques en général.
Après les inondations, c'est ça que vous dites?
Oui. Tels que la timidité, le stress, la frustration. Et quand nous constatons les cas, nous faisons le référencement auprès d'un psychologue et l'enfant est pris en charge.
Entre-temps, sur le site, les enfants sont soumis à plusieurs activités. Alexis Callot, l'un des formateurs.
Nous faisons l'activité 3 fois par semaine. Il y a les activités sportives, hein, culturelles, sociales, la sensibilisation sur le VIH et SIDA, le dépistage volontaire.
Le dépistage avec les enfants?
Oui, on leur montre comment l'importance de ça aussi. Il y a aussi sur la violence sexuelle faite aux femmes et au genre aussi.
Une formation qui porte déjà des fruits, reconnaît un parent.
Avec l'arrivée de l'UNICEF ici, nos enfants ne savaient pas dire bonjour au papa. Maintenant, ils le font. Ils se lavent désormais les mains avant de manger. C'est un pas important.
Notons que cet encadrement des enfants est prévu pour 3 mois. Depuis Zouangouba, dans le territoire de Mobaïmbongo, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Kapi.
Direction Kisangani, le groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo est de nouveau en panne depuis lundi dernier. La Société nationale d'électricité SNEL l'a annoncé hier dans un communiqué de presse. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Cette panne du groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo est intervenue 3 semaines après sa remise en service. Quelques semaines auparavant, il était hors service suite à un dysfonctionnement technique. À cause de l'arrêt de ce groupe, la centrale de la Tchopo ne fonctionne plus actuellement qu'avec un seul groupe, le numéro 2, le premier étant hors usage depuis 2017. En conséquence, un déficit accru de la puissance est enregistré. La production est donc réduite de 10 à 2,5 MW alors que le besoin y afférent de la ville est estimé à 40 MW. Tout en présentant ses excuses à ses abonnés, la SNEL rassure que ses équipes sont mobilisées pour la réparation de cette panne dans le meilleur délai. En attendant, la SNEL a renforcé le délestage sur le réseau de distribution dans la ville. Seuls les sites stratégiques sont privilégiés, notamment la régie des eaux, le site universitaire de Kisangani, les structures médicales, la RTNC, ainsi que les aéroports de Simisimi et de Bamboka. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale. Situation sécuritaire en Libye. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier à New York une résolution réclamant qu'un cessez-le-feu durable remplace la trêve observée depuis janvier en Libye. Les diplomates ont ainsi confirmé les conclusions du sommet de Berlin le 19 janvier dernier, où de nombreux dirigeants avaient affiché leur unité. Il aura fallu donc près de 4 semaines aux membres du Conseil de sécurité pour valider les conclusions de la conférence de Berlin.
L'invité.
Comme promis, nous recevons dans ce journal le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Toumba. Il nous parle de l'accord qui, selon lui, représente une bonne opportunité pour la RDC. Jean-Lucien Boussa s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, au cours duquel l'Afrique du Sud a pris la présidence pour l'exercice 2020 et la RDC la vice-présidence de cette organisation, la question de la zone de libre-échange continentale a été évoquée largement. Où en est-on par rapport au préalable en République démocratique du Congo?
Merci pour la question. La RDC est signataire de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAF. Vous savez que cet accord a pour objectif, la libéralisation des échanges intra-africains. Ça veut dire la libéralisation tarifaire et le démantèlement tarifaire, mais aussi le démantèlement de ce qu'on peut appeler des obstacles non tarifaires. On devrait échanger librement. Il est convenu que pour les pays les moins avancés, cette libéralisation intervienne au bout des 13 ans. Mais dès le 1er juillet 2020, il faut commencer à démanteler les tarifs de l'ordre de 90% et c'est sur 10 ans. Les 10% qui restent devraient être démantelés pour les PMA, donc les pays les moins avancés comme la RDC, à partir de la 11e année, donc les 3 années, pour qu'ils parachèvent le processus. À ce stade, la République démocratique du Congo a déjà fait sa proposition sur les 90% des lignes tarifaires, sur les 6050 lignes tarifaires dont on dispose. La RDC a dégagé aussi ce qu'on appelle le produit sensible et le produit d'exclusion, qui ne seront pas concernés par ces démantèlements pendant les 10 ans à venir. Là aussi, on peut dire que la RDC a déjà fait ses propositions sur les commerces des services. Donc la RDC n'est pas en retard par rapport à d'autres nations, au contraire.
Que va apporter cette zone de libre-échange à la République démocratique du Congo?
La zone de libre-échange continentale qui consacre donc les échanges libres intra-africains, c'est une opportunité pour l'Afrique d'abord, mais c'est aussi une opportunité pour la République démocratique du Congo. Comme vous savez, lorsque on ne paie pas les droits des douanes, ça veut dire qu'on peut importer au coût le moins élevé, comme par rapport à aujourd'hui. Lorsque on exporte aussi auprès de pays voisins sans que les droits de douane ne soient payés, il est clair aussi que les pays voisins ou les pays d'Afrique tirent les bénéfices. Mais vous savez qu'il y a une relation étroite entre le commerce et l'investissement. Dès lors que on a libéralisé les échanges, il est clair que les coûts de production baissent. Il est aussi donc clair qu'on peut assister à des mouvements d'investissement direct étranger entre Africains. Et nos capacités de production peuvent être améliorées. Mais il y a des craintes. Beaucoup de Congolais se disent, mais on produit pas grand-chose. On n'exporte pas grand-chose. Mais on risque de perdre les recettes des douanes. Et notre économie risque de devenir un déversoir. Je dirais à ces Congolais que c'est faux. L'adhésion à la zone des libre-échange continentale doit être saisie comme une vraie opportunité qui doit permettre des ajustements au niveau des politiques économiques internes afin de nous préparer à pouvoir vendre sur un vaste marché. Le marché africain est de 1 milliard 250 millions d'habitants. Le commerce intra-africain est simplement de 7%. Avec la zone de libre-échange continentale, les études menées par les Nations Unies démontrent que nos échanges vont passer de 17% à 54% pour un marché qui va se développer jusqu'à atteindre des milliards en termes de PIB. C'est un marché important. L'argument à contrario, c'est lequel? Et si la RDC s'isolait seule, que deviendrions-nous alors que tout le monde a adhéré? Si la RDC s'isolait, il est clair, un, le coût de production en RDC vont augmenter. Il est clair que le prix des biens et des services vont augmenter par rapport aux pays africains qui seront dans la zone de libre-échange continentale. Et donc, par conséquent, personne n'achèterait en RDC. Et même les Congolais eux-mêmes vont commencer à prendre les produits des pays voisins qui vont coûter moins cher que les produits locaux. Donc, nous n'avons pas de choix, nous devons y aller.
Pourquoi la RDC n'a toujours pas ratifié l'accord portant à sa création?
Le gouvernement congolais a déjà, le 1er novembre 2019, adopté le projet de loi de ratification de la zone de libre-échange continentale. Je l'ai présenté à l'Assemblée nationale le 10 décembre de cette année, mais comme vous saviez, l'Assemblée nationale était entrée d'aller aux vacances parlementaires, mais en même temps, il y avait une urgence, les budgets de l'État. Et donc, au retour de la session de mars, il est clair que la RDC va ratifier et va être en ordre. Ça sera peut-être le 29e État qui aura ratifié l'accord de libre-échange sur la zone de libre-échange continentale. Donc ça, c'est plus un défi. Le processus est en cours.
Notre pays ne produit pas grand-chose à part les secteurs miniers. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour la RDC d'adhérer à une organisation comme celle-là?
Mais on n'a pas de choix. Déjà, nous appartenons au COMESA. Nous sommes à la CAC. Nous sommes aussi membres de la SADC. Dans toutes ces organisations, les règles sur lesquelles se base la volonté des États membres pour les commerces, c'est justement le libre-échange, où les gens doivent échanger sans barrière tarifaire et non tarifaire. Je pense qu'on a besoin des vastes marchés.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Voilà, c'était là notre invité, le ministre Jean-Lucien Boussa du Commerce extérieur. Il nous parlait de la zone de libre-échange continentale qui, selon lui, représente une bonne opportunité pour la RDC et répondait aux questions de Grace Hamzati. Par ici, nous mettons un terme à ce journal. Pelle équipé la Mondo l'a supervisé. Richard Junior Kamonga à la coordination. Dieudonné Nyangasa, la mise en onde et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci.